Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Je suis Luc Desormeaux et m'accompagnant encore une fois cette semaine, comme toujours finalement, ça se ressemble d'une semaine à l'autre, mon collègue et mon ami Marc Bouchard. Salut Marc.
Ouais, ben c'est une bonne nouvelle que ça se ressemble d'une semaine à l'autre. Quand même, on fait une émission, on est supposé faire la même chose d'une semaine à l'autre. Je vais juste te dire ça, là.
Ouais, c'est pas c'est comme ça qu'on appelle ça une constance, hein?
Ouais, exactement. Okay. Exactement.
C'est bon.
On espère que c'est pour ça que les gens nous écoutent d'ailleurs.
On espère. Ouais. S'ils nous écoutent, parce que ils aiment peut-être juste comme nous haïr aussi, on sait jamais. Il y a du monde qui écoute des émissions de télé juste pour haïr les animateurs, j'imagine. Fait que, mais bon, ouais, on espère que non.
J'ai un peu de misère, là.
OK, correct. Donc, ça va, Marc?
Oh oui, ça va bien, toi.
j'ai connu de meilleures semaines, mettons, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas eu des bonnes nouvelles pour ma Leaf, donc c'est un peu...
T'as pas eu des bonnes nouvelles pour ta Leaf? Ah non, c'est vrai, t'as plus de chauffage.
J'ai plus de chauffage dans ma Leaf et... Je l'ai apporté chez Nissan, qui, ma foi, charge 120$ de l'heure pour vérifier ta voiture. Hein. La facture est assez salée, ça c'est plus les taxes. Donc c'est presque 140$ avec les taxes et tout ça, pour me faire dire que si je veux faire réparer mon chauffage, ça va me coûter 3600$ plus taxes. Parce que ça a l'air qu'eux autres, ça leur prend 19 heures à remplacer la pièce. Bon, il y a un autre garage à qui j'ai demandé de me faire un prix, et ça coûte juste 1100$ de moins. Et ça a l'air à leur prendre moins de temps aussi. Donc, je sais pas, chez Nissan, si ils dévissent à la main au lieu de dévisser avec une drill. Mais ça a l'air d'être pas mal plus long. Donc, c'est plate.
Ouais,
c'est plate, mais le concessionnaire Nissan n'aura pas le travail de réparer ma Leaf, malheureusement. Parce que ça me tente pas de payer 1100$ de plus que je pourrais payer ailleurs. Mais c'est assez décevant.
À ce prix-là, t'es mieux de t'acheter un bon manteau d'hiver, c'est mon avis.
Ouais, c'est ça. Mais c'est assez décevant parce que... Ça a l'air commun en plus, parce que j'ai parlé avec quelqu'un d'autre qui va finalement réparer la Leaf quand je vais être prêt à la faire réparer. Là, tu sais. Puis il m'a dit, j'ai contacté la personne qui me fournit les pièces, puis il y a de la misère à me l'avoir ces temps-ci parce qu'ils en ont remplacé beaucoup. Donc, ça me laisse un peu perplexe quand quelqu'un me dit qu'ils en ont remplacé beaucoup. Ça sonne un petit peu vis caché dans ma tête, ou tu sais, pièce qui brise, mais que Nissan comme dira rien tant que ça viendra pas trop, tu sais, comme Toyota avait fait un peu avec les freins, puis les moquettes, puis les patentes.
Ouais.
C'est quand c'est devenu plus critique qu'ils ont décidé de dire, OK, ils ont accepté qu'il y avait un problème. Là, on parle pas d'une pièce mortelle, à part, tu sais, mourir gelé, là. Mais c'est drôle parce que j'ai pris la voiture un matin pour aller l'amener chez le concessionnaire. Il faisait moins 26 quand j'ai parti, pas de chauffage tout le long. Puis quand je suis arrivé là-bas, ma femme m'a dit, puis comment ça a été? J'ai dit, je viens regagner 2 ans de vie. J'ai dit, ma congélation m'a conservé. Fait que je vais probablement vivre 2 ans de plus, mais...
Bon, assez mis à pleurer.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle dit, moi qui passais, me débarrasse de tout et dans pas long. Mais non, fait que c'est ça. Ça va coûter cher. On est encore en train de voir si on va la faire réparer. J'ai l'impression que oui, parce que pour le reste, il n'y a pas de problème, là. Mais on s'entend-tu que... 3600$ plus taxes pour faire réparer un problème, ça commence à être salé un peu. Donc, si vous vous magasinez une Leaf pré-2017, là, l'ancienne génération, 2018, je vous dirais, pensez-y. Parce que c'est je suis allé sur un forum de Leaf, il y a beaucoup de gens qui en parlent, donc je suis pas le seul à avoir ce problème-là. Puis tout le monde dit, je peux pas croire que ça coûte ce prix-là pour faire réparer ça. Ben oui, c'est parce que c'est une thermopompe, c'est pas un chauffage régulier. Donc c'est assez
hallucinant, là.
Assez. Donc ça me ralentit un peu. Pas sur le fait des voitures électriques. J'adore toujours les voitures électriques, mais j'hésiterais à m'acheter un autre véhicule électrique. Je commencerais à y repenser un peu, à voir quel constructeur offre le prix le plus modique pour réparer. Tu sais, poser une question, aller voir la personne du service et dire, regarde, si cette voiture-là, si j'ai des problèmes avec, quelle pièce coûte vraiment cher? Puis regarder un coût hors garantie, regarder comment ça peut faire un petit trou dans votre portefeuille, parce que ça, c'est un trou moyen. Fait qu'on va voir ce qu'on va faire d'ici. L'avantage, c'est que le printemps arrive, donc, tu sais, cet été, j'aurais pas besoin printemps, été, j'aurais pas vraiment besoin du chauffage, donc on a tout l'été, puis un petit peu début de l'automne pour la faire réparer. On va se trouver une manière de se mettre de l'argent à côté un peu pour payer ça, là, mais c'est... Surtout que je viens de finir de la payer, tu sais, en plus. C'est comme la semaine d'après, elle arrête de chauffer. Ma femme a dit, tu me niaises, là. C'est comme, au moment, c'est comme pour nous punir, tu sais. C'est comme, vous avez fini de me payer, ben, tu vas payer pareil. Mais bon. Problème personnel, on va passer là-dessus, c'était tranche.
Mais c'est quand même un peu hallucinant, là. Un prix de, comme celui-là pour un chauffage, c'est un peu fou, là, mais bon.
Mais, tu sais, puis là, j'ai posté hier sur ma page Facebook, tu regardes, je trouve que ça n'a pas d'allure, puis ça, puis il y a des gens, ah, les voitures électriques, on sait bien, regarde, prenez votre gaz égal, là, parce que beaucoup de voitures à essence maintenant utilisent le même système de chauffage parce que c'est moins énergivore. Fait que, écrasez-vous un peu, là. Commencez pas à dire que c'est juste les voitures électriques. Il y a beaucoup de voitures à essence modernes qui s'en vont avec ces genres de chauffage-là. Donc, ça pourrait s'appliquer à une autre voiture qui est pas électrique. Mais bon, on va passer à d'autres choses. Marc, t'as essayé des choses intéressantes, mais avant, tu veux juste faire un petit survol du Salon de Genève. Mais avant, c'est vrai, j'ai presque oublié. On a eu raison, Marc. La JAC a annoncé les gagnants des voitures et véhicule utilitaire de l'année, puis on avait raison. Mettez un X sur le calendrier, tout le monde.
Oui, le I-Pace qui a gagné comme utilitaire. C'est la première fois d'ailleurs dans l'histoire qu'un véhicule électrique l'emporte dans cette catégorie-là, ouais, comme véhicule de l'année. Quand ouais, même, c'est
bien
rien.
Mérité aussi, là.
Oui, totalement.
Hallucinant comme véhicule, là.
Effectivement. Et la voiture, ben, c'est la Kia Stinger.
Oui.
Ce qui est quand même un peu étonnant, écoute, on l'avait prédit, puis je suis fier de l'avoir prédit. Ceci étant dit, c'est quand même un peu étonnant parce que c'est une voiture qui datait quand même d'un an.
Ouais.
Fait que, tu sais, je trouve ça particulier, mais bon, c'est une excellente voiture, ça le mérite tout à fait, il n'y a aucun doute là-dessus.
Mais il faut dire aussi que c'est sa cousine, la G70, qui a gagné véhicule nord-américain de l'année.
Ouais, mais nous, elle n'était même pas là.
Non, nous, elle n'était pas là, mais... Elle n'était pas là, la G70?
Ben, elle n'était pas dans les gagnantes, là.
Non, mais elle était dans les voitures en lice au départ, là, mais c'est ça.
Je suis pas certain. Le problème, en fait, je pense que c'est la date à laquelle se tient l'événement. C'est ça qui est toujours le problème, hein?
Mais c'est parce qu'elle était au Festival des essais.
Non, mais si elle était là, d'abord, elle était dans l'Est. Je m'excuse, je ne suis pas allé cette année au Festival des essais.
C'est ça, parce que notre collègue et ami, Marc Lachapelle, l'a roulé sur la piste, la G70. Donc, elle était là pour la JAC, là, pour le Festival des essais. Mais c'est ça, elle n'a pas gagné. C'est la Stinger, mais bon, c'est des proches cousins, là. Donc, félicitations pour les gagnants, mais c'est le fun de voir que, pour une fois, on a eu raison, parce que l'année passée, j'avais fait le même exercice, puis j'étais dans le champ. Donc, c'est bien.
Toi, dans le champ, voyons, tu fais jamais ça.
Ben non, attends, je vais aller enlever la boue après mes pneus. fait que tu veux nous parler du Salon de Genève, pas grand-chose d'intéressant, juste quelques petites choses, donc je te laisse aller, là. Qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant?
En fait, ce qui est intéressant, le plus intéressant, c'est définitivement le VUS CX-30 de Mazda.
Ouais.
Le CX-30 qui est... étonnamment, ce que je trouve très drôle, entre le CX-3 et le CX-5.
J'aurais pensé qu'il aurait refait le CX-7, moi.
Ben, en fait...
Entre le 5 et le 9, mais...
Ça va éventuellement arriver. Ils ont déjà produit un CX-8 au Japon, tout comme ils ont produit un CX-4 au Japon, ce qui explique qu'on se retrouve avec le CX-30.
Pourquoi pas CX-4 ici aussi?
Parce que c'est pas le même véhicule, parce qu'il est pas conçu de la même façon, parce que, bon, pour toutes sortes de raisons qui sont sûrement très bonnes dans leur tête.
Ouais, parce que c'est bizarre, CX-30, là.
Oui, totalement. Ouais. Mais il est super beau, il est magnifique, il reprend toutes les lignes Kodo, il reprend... Tu sais, là, on est vraiment, vraiment, vraiment dans la stratégie Mazda. On dit que ça va être un moteur Skyactiv X, et on confirme qu'il va être au Canada, là.
OK.
C'est pas le coup de la,
on se fait pas faire le coup de la Mazda 2, là.
Non, non, pas du tout, là. Okay. Ça a été confirmé par les gens de Mazda Canada. Ce véhicule-là va être au Canada. C'est réglé, c'est fait. Il s'en vient. Donc, ça fait partie, en fait, des rares véhicules qui ont été présentés à Genève qui vont arriver chez nous.
Okay.
Dans la série des affaires un peu flyées, le concept Engelbert Tourer de Mitsubishi,
okay,
qui est, ma foi, assez flyé. C'est un VUS hybride branchable, dont les lignes sont originales, pour le moins. On dit que ça pourrait être un peu la base de ce que serait le nouveau Outlander PHEV. Mais en fait, dans les faits, on attendait le RVR là-bas, puis il n'est jamais arrivé.
Bon, il a manqué l'avion.
Fait que c'est pas ça qu'on a présenté. Donc, pour le moment, on parle de... Dans le Engelberg, et non pas le Engelbert comme dans Humperdinck du même nom.
Ouais, c'est ça.
On dit que c'est deux moteurs électriques, 4 cylindres, 2.4 litres. C'est pas mal la même affaire que ce qu'on a déjà, mais on a amélioré la capacité électrique. Bref, C'est un beau concept qui demeurera, je pense, au stade de concept.
Ouais, ça serait bien que Mitsubishi revoie un peu leur design, par exemple. Puis je veux pas être gentil, mais j'ai vu un Outlander PHEV hier sur la route. Puis avant de voir que c'était écrit PHEV dessus, j'étais sûr que c'était un Mitsubishi du début des années 2000. Là.
Mais en fait, le problème, c'est que le Outlander a pas changé.
C'est vieillissant, fait que c'est pas attirant. Oui, je comprends que c'est PHEV, puis que c'est un véhicule hybride branchable, puis qu'on se vante d'être le premier véhicule hybride branchable abordable, là. Mais mon Dieu, que c'est le design est tellement pas inspiré quand je le regarde, ça comme... T'as vraiment l'impression que c'est un véhicule qui sort du début des années 2000.
Non, c'est vrai, et c'est un peu pour ça qu'ils veulent... rajeunir, si tu veux, ce look-là, mais on verra ce que ça va
donner. Pas dans 4 ans, il faudrait que ça soit fait comme...
Déjà, on a montré celui de l'année prochaine qui sera probablement pas chez nous, puis on n'est pas exactement dans un renouvellement très frappant.
Bon, on verra.
Autre version hybride en fichable et un VUS, c'est Alfa Romeo qui a présenté la Tonale.
Okay.
Tonale, c'est encore une fois un VUS... mais branchable.
Okay, c'est
quand même... oui, puis il est vraiment beau, là. Il est vraiment beau.
FCA a annoncé qu'il embarquait là, dans l'hybride branchable et dans l'électrique, là, ce qu'ils se sont retenus de faire un peu depuis quelques années. Là. Marchionni n'était pas tellement un fan de ça, mais là, ça a l'air que la nouvelle direction a décidé que c'était...
Exactement. Bien. Alors, on dit que ça, le Tonale, va être disponible, bon, version turbo 4 cylindres, de base, mais il va aussi être disponible en version branchable. Et la particularité, c'est que même si c'est un Alfa, on aurait pu croire qu'il aurait été bâti sur la Giulia ou sur le Stelvio. Mm-hmm. Non, non, monsieur, il va être en fait bâti sur une plateforme de Jeep.
Ah, okay.
Parce que je te rappelle qu'au même salon de Genève, on a présenté le Jeep Compass et le Jeep Renegade branchable aussi.
Ouais.
Donc, moteur turbo 1.3 litres, unité arrière, 50 km d'autonomie, c'est ce qui a été présenté là-bas. Donc, vraisemblablement, on va partager avec le Alfa Romeo.
Bon, ça devient intéressant.
Ouais. Après ça, bon, il y en a eu des tonnes. Audi qui a présenté 4 véhicules branchables aussi. Subaru qui a présenté la Visive Adrenaline. On a-tu hâte qu'il y ait une vraie Visive quelque part?
Pire, c'est que le nom probablement ne sera pas gardé comme modèle de production.
Je sais pas, mais ça fait comme 20 fois qu'ils nous présentent des concepts qui sont magnifiques. Là. Je ne veux pas enlever la beauté du design de la Visive Adrenaline. Le problème, c'est que généralement, ils nous présentent de magnifiques véhicules prototypes, puis on se retrouve avec des modèles de production.
Ben ouais, il avait fait la même chose avec l'Impreza. On avait vu l'Impreza au Salon de Toronto. Elle était-tu belle, la nouvelle Impreza au Salon de Toronto?
Écoute.
Elle était incroyable. Puis je suis même allé voir le président de Subaru Canada. J'ai dit, ça, vous avez pas le choix. Il faut que ça sorte comme ça. C'est tellement une belle voiture. Sort le modèle de production, c'est comme...
Okay. Non, non. Ouais. C'est ça. Puis... tu vois, ils ont fait la même chose avec la STI. Enfin, en tout cas, bref, celle-là, on dit que ça pourrait être le prochain Crosstrek.
Ouais, OK.
Mais parce que c'est plus comme ça, là. C'est plus donc grosse roue un peu surélevée, petit VUS, mais bon, j'ai bien hâte de voir. Sauf que bon, voilà ce qui met à peu près fin aux affaires intelligentes et presque pratiques du Salon de Genève. Le reste, c'est vraiment des affaires que toi puis moi, dont toi puis moi, on pourrait rêver tant qu'on voudrait, mais on n'est vraiment pas là.
Mais c'est souvent le cas du Salon de Genève. C'est le salon des gros compagnies de voitures dispendieuses.
Cette année, ils sont intenses.
Okay.
Volkswagen qui a présenté l'ID Buggy. C'est les fameux Dune Buggy qu'on avait quand on était jeune. Là.
Mm-hmm.
Ben là, ils utilisent la plateforme modulaire électrique de Volkswagen, la MEB, là, qui va servir à la nouvelle Golf E. Les batteries lithium-ion 62 kW, moteur électrique 201 chevaux, autonomie 250 km, mais c'est un dune buggy. C'est 2 plus 2, pas de toit, vert, jaune, fluo, pas de calandre, vraiment tout ce qu'on avait là, dans les petits dune buggy qu'on achetait chez Hot Wheels quand on était jeune.
Ouais.
C'est de ça. Alors, ils ont présenté ça.
Tu sais, si je me promenais quelque chose, pas de chauffage d'hiver au Québec, m'a gardé ma livre de même.
Oui, c'est vrai, toi, t'es bon.
Tant qu'elle me promenait avec une auto, pas de toit. Là.
et il y a eu à Genève aussi 3 premières mondiales, non, 3 records du monde, je te dirais.
Okay.
Le premier, c'est la voiture la plus puissante au monde, la Pininfarina Battista électrique. Okay? Elle va se vendre au Canada, c'est Pfaff de Toronto qui a déjà confirmé qu'ils en seraient distributeurs. Ils vont en avoir 150 unités dans le monde et elle présente, tiens-toi bien, 1900 chevaux.
C'est, ouais. Électrique, j'ai pas de misère à le croire parce que c'est du couple instantané puis c'est de la puissance incroyable quand c'est bien géré.
Mais c'est quand même 1900 chevaux.
Ouais, ouais.
Puis ça sera pas, en tout cas, c'est pas sur ma liste de Noël parce que je pense que ma femme me l'achètera jamais. Ceci étant dit, il y a eu une autre première mondiale qui est la voiture de série la plus dispendieuse au monde.
OK.
C'est la Bugatti La Voiture Noire. C'est son nom. La Voiture Noire.
Okay.
Parce que, comme son nom ne l'indique pas, Bugatti est une compagnie française.
Oui.
Mm-hmm. Alors, ils ont des noms français et ils ont décidé d'appeler ça la voiture noire qui se vendait, la bagatelle, de. Elle était listée à 12,8 millions de dollars US.
Bon, tu changes.
De base. Ouais. Elle a finalement été vendue pour 16,9 millions de dollars US.
C'est une copie unique, j'imagine? Ou
c'est une copie unique, mais c'est la voiture de série. Ils pourraient en refaire d'autres. Évidemment, tout est en carbone. Donc, il y a ça. Et il y a finalement un troisième, donc c'est leur deuxième record mondial. Et le troisième record mondial, c'est la voiture la plus rapide du monde.
Okay.
La voiture de série la plus rapide du monde. La Koenigsegg Jesko,
okay.
Qui a été enregistrée à des vitesses maximales de plus de 300 000 à l'heure.
Ça commence à être...
1000.
Ouais, ouais, c'est 300 000 à l'heure, c'est presque 500 km/h, ça.
C'est ça. Alors, ce serait la voiture la plus puissante du monde. Donc, comme tu vois, ben, il y a eu toutes sortes d'autres choses à Genève, mais je trouvais que ça, c'était comme un beau... disons, une belle explication de pourquoi Genève est un salon complètement débile.
Ouais, ouais.
Tu sais, il y a des affaires quand même cool, là. La Honda E... qui est un petit véhicule, vraiment petit véhicule urbain électrique par Honda, qui est super cute. Mm-hmm. Ça, c'est intéressant. Ça a aussi été présenté là-bas. Bon, on ne sait pas, évidemment, s'il y aura une quelconque vue pour ça, mais peut-être. Nissan qui a présenté l'IMQ concept, qui est un autre concept électrique là, qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer avec, mais on en avait vu d'autres à la Détroit, entre autres. La Q4 e-tron, les fameuses e-tron de Audi qui sont arrivées. Il y a la Polestar 2. Ça, je l'avais oublié, celle-là. La Polestar 2, c'est la... Bon, comme tu sais, Polestar, c'est une division de Volvo qui va être 100% électrique. Okay. Donc, on nous dit qu'il y aura la Polestar 1 qui est une berline, la Polestar 2 qui est une espèce de VUS hatchback, un subtil mélange, qui a aussi été présenté là-bas, qui serait 100% électrique. Bref, il y a eu beaucoup de nouveautés. La grande question, c'est combien vont vraiment traverser l'Atlantique? Tu as la réponse autant que moi, c'est-à-dire au moins une jusqu'à date et c'est tout.
Ben, c'est ça. Combien vont traverser et combien vont être vendus aussi ou qui vont rester seulement des concepts? Là.
C'est ça,
donc,
exactement.
On va voir. Parfait. Donc, ça termine ça pour Genève. Tu veux-tu nous parler un peu de ton essai de tout ce qui est de tout ce qui est traction intégrale de Nissan au Mont-Tremblant?
Oui, écoute, ça a été vraiment chanceux. Fun. Ouais, ça a été vraiment cool. En fait, c'est un programme de traction intégrale, mais c'était d'abord le lancement hivernal, si tu veux, canadien, de la Nissan Altima All-Wheel Drive. Ouais. Tu te rappelles que j'étais déjà allé en Californie l'essayer, et là, on a décidé de la mettre dans son habitat naturel, qui est celui de l'hiver.
Mm-hmm.
C'est une berline qui est vraiment impressionnante. Sérieusement, là, elle est bien faite, elle est bien assemblée, elle est luxueuse, elle a du style, elle a de la gueule. Elle répond bien. Bon, je trouve qu'elle manque un petit peu de puissance. 188 chevaux, c'est bien. Mais on dirait qu'en tout cas, nous, on est parti du Mont-Tremblant, on est allé vers Mécaillé. Non, on est plutôt parti de Montréal pour se rendre au Mont-Tremblant. Puis on était dans les routes de campagne des fois, dans des côtes. Puis objectivement, là, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus puissante par moment. Par contre,
ça aurait été pas pire.
C'est ça. Par contre, le rouage intégral, il est d'une efficacité redoutable. Écoute, on s'est promené dans des routes de campagne, ça a glace, là. OK, on avait de bons pneus, mais n'empêche, c'était assez spectaculaire.
OK.
Assez spectaculaire. Vraiment, ça corrigeait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas trop intrusif. Tous les systèmes embarqués, bon, traction control et tout ça, plus le système qu'on appelle le Nissan Intelligent Mobility, là, les fameux Pro Pilot Assist et tout ça, ne sont pas si intrusifs et ça permet donc une conduite vraiment efficace. Puis je t'avoue qu'il est arrivé en haut d'une côte à un moment donné où j'ai fait un move de sans dessin.
Encore?
Ouais, ça m'arrive.
Ben et là, ça a l'air d'être arrivé à toutes les fois parce que la semaine passée, tu as parlé d'un move de sans dessin avec une longue remorque. Là, un move de sans dessin là, t'avais j'étais dangereux.
Non, c'est parce que vraiment, on est arrivé dans le haut de la côte et il y avait vraiment de la glace vive.
Ah, OK.
Et bon, j'ai comme tourné un petit peu trop radicalement, mais la voiture a corrigé comme si de rien n'était là.
Ah, OK.
C'est vraiment spectaculaire. Une fois ceci dit, on est parti du Mont-Tremblant le lendemain matin pour se rendre à Michaelis au volant du Murano.
Ouais.
Murano, qui a été légèrement modifié cette année. Nouvelle calandre, nouveau bloc optique, nouveau feu arrière, c'est tout. C'est le même V6 3.5 qui est en dessous du capot, qui est un moteur que j'adore parce qu'il est super efficace. Et lui aussi, évidemment, rouage intégral. Bon, lui, évidemment, il est plus lourd. Fait qu'on l'a senti. Et on a eu l'occasion d'essayer les deux véhicules, l'Altima et le Murano, sur la piste. Piste glacée à Mécaglisse, d'ailleurs, dans des conditions exceptionnelles. Et... vraiment, oui, le Murano, on sent là, qu'il est plus lourd, qu'il a tendance à sous-virer largement quand on insiste un peu, mais vraiment, il fait très bien le travail. L'Altima, par contre, sur la piste, écoute, ça se conduit du bout des doigts. On était sur la glace vive, OK, on avait des pneus à clous, là, mais on roulait 50 et 60 km/h sur la glace vive en faisant des slaloms puis des virages, puis honnêtement, on était tout à fait capable d'être en contrôle.
OK, c'est bien.
Et il y a eu la fin de la journée, ben, en fait, dans mon cas, le début, où ça a été la partie où je me suis amusé le plus. Tu te rappelles qu'au Salon de l'Auto de Montréal, on a présenté un véhicule qui s'appelait la Nissan Altimate.
Oui, oui.
Qui est une Altima, en fait, qui a été corrigée par Motorsports in Motion, MIA, sur la Rive-Nord de Montréal. Et ils ont élargi les arches de roues et ils ont enlevé les roues pour mettre des chenilles.
Ouais, on avait fait la même chose avec
le Rogue
l'année passée. Ouais.
C'est ça. Mm-hmm. Mais le Rogue était beaucoup plus élémentaire que ça. Ils ont vraiment fait une job incroyable avec l'Altima. En fait, c'est une Altima pareil. T'as tout, les systèmes embarqués fonctionnent. Tout est là, là. C'est la même voiture.
Okay.
T'as aucun changement et le rouage intégral fonctionne. Et je suis donc allé me promener dans le bois avec cette chemise, avec ce véhicule-là avec des chenilles. Écoute, je peux pas t'en parler plus que ça parce que ça a été vraiment super le fun, bien agréable. Évidemment, la direction est un peu compliquée à maîtriser. Faut pas que tu tournes quand t'es arrêté parce que les chenilles peuvent débarquer. Tu sais, il y a des contraintes, mais c'est vraiment agréable. C'est sûr que c'est super bruyant,
ouais.
Mais c'est vraiment agréable. Écoute, j'ai fait un texte sur mon blog, marcbouchard.ca. Je vous invite à aller le voir. Il y a une photo ou deux. Il y a une petite vidéo, en fait. Je parle aussi de l'Altima. Mais vraiment, l'expérience avec l'Altimate, ça a été quelque chose de très, 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 très cool.
Bon, super. Donc, Marc, on va faire une pause. Parce
Et il y avait du chauffage.
Ah, il y avait du chauffage, j'imagine. Donc, on va faire une pause, mais aller me réchauffer un peu. Et puis, on va revenir avec nos essais de la semaine. Nous sommes de retour. Et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Tu as essayé un véhicule que je vais essayer dans quelques semaines. Véhicule qui, à date, je n'ai pas entendu de mauvais commentaires à ses propos. C'est le Hyundai Kona 100% électrique, le Hyundai Kona EV.
Oui, et honnêtement, c'est jusqu'à maintenant le véhicule électrique qui m'a impressionné le plus. N'en déplaise aux propriétaires de Tesla. C'est vraiment un véhicule qui est super agréable. Écoute, j'en parlerai pas très longtemps parce que, un, la bouche m'arrête pas depuis le début de l'émission, et deuxièmement, comme tu vas l'essayer dans 2 ou 3 semaines, je suis curieux que tu me fasses la comparaison avec ta Leaf, entre autres,
okay.
Et avec d'autres véhicules électriques, mais je peux te dire que, d'une part, c'est un Kona, tout ce qu'il y a de plus traditionnel au niveau du look, donc je l'aime déjà beaucoup.
Ouais.
Au niveau de l'espace, c'est un peu limite. Hein? Assis en arrière, là, mon fils voulait m'assassiner parce que, bon, il y a des grandes jambes puis il n'y a pas beaucoup de place. Ouais. Donc,
disais ton fils que c'est pas une bonne manière de récupérer tes assurances, par exemple.
Non, c'est vrai, sais-tu, j'avais pas pensé à celle-là. Je vais être obligé de ça me donner une bonne défense. Sérieusement.
Ouais, qui attend.
Mais sincèrement, il n'y a pas beaucoup d'espace arrière. L'espace de chargement est correct, mais sans plus. T'sais, bon, du point de vue physique, c'est une chose. La conduite, cependant, écoute, la puissance, elle est là. C'est un petit moteur qui est nerveux et qui se recharge relativement rapidement. Comme tu sais, je n'ai pas de borne à la maison. Je l'ai dit, je l'ai répété de je ne sais pas combien de temps. Mm-hmm. Et je n'ai pas eu de problème. C'est vrai que j'ai fait moins de routes probablement que je n'en fais d'habitude. Mais honnêtement, j'ai trouvé que ça se rechargeait bien. Écoute, même mon système électrique n'a pas sauté, ce qui est presque un exploit dans mon cas. Et honnêtement, j'ai fait appel à des bornes de recharge rapide une seule fois pour être en mesure de franchir tout ce que je pouvais. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé l'ergonomie aussi. J'ai beaucoup aimé la motorisation. J'ai pas de mauvais commentaires à faire sur le Kona électrique.
Okay.
Vraiment. C'est vraiment un petit véhicule que je recommanderais n'importe quand pour quelqu'un qui veut un véhicule électrique. Et, bon, 415 km d'autonomie, ça, c'est ce qui est ultimement annoncé. Il faisait froid. J'ai eu 303 au maximum.
Okay.
Bon. Ça, c'est ce que j'ai eu de plus. J'ai eu plus aux alentours de 285, je te dirais. Là. Quand il était 100%, là, c'était aux alentours entre 285
et 290. OK, OK. Ouais. Ben, ça va un peu avec les calculs de perte d'autonomie en hiver quand il fait super froid. Là.
Ouais, on est à 35-40%.
Ouais, c'est ça.
C'est à peu près ça. Ouais. Donc, on n'est pas... Mais honnêtement, et je dois souligner, au-delà de la conduite, comme je te dis, je vais te laisser faire les commentaires dans deux semaines, ce que je dois souligner, c'est la précision de l'estimateur de distance.
Ouais.
Tu sais, d'habitude, là, t'embarques dans n'importe quel autre véhicule, que ce soit la Leaf, que ce soit les Ford Focus électriques ou n'importe quoi, ils sont optimistes, disons. La Bolt est la pire, probablement, à cet effet-là. Là. On te donne une échelle entre 200 et 280, tu sais.
Ouais, mais la Bolt va s'adapter selon ta conduite au fur et à mesure, puis tu vas pouvoir... Normalement, c'est assez précis, mais ça change beaucoup. Parce que ça va changer selon ton attitude, ta conduite au moment présent. Là.
Ben moi, donc... je peux te dire que, écoute, j'ai eu le même genre de conduite avec la Kona EV.
Ouais.
Puis j'ai pas eu ces changements-là. Et c'est arrivé avec une précision chirurgicale, ouais. Littéralement.
Ben moi, dans ma ligue, j'appelle ça le devinomètre.
Ouais, ben c'est ça. Mais avec la Bolt, moi, ça a été exactement ça aussi. Alors que là, vraiment, c'était précis, c'était vraiment le fun. Ouais. Honnêtement, là, j'ai été bien, bien impressionné de ce véhicule-là. J'ai hâte de voir ce qu'il va offrir quand il va arriver dans sa version de base, parce que là, on parle bien sûr d'une batterie de 64 kWh. On va en avoir une de 39. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans cette version-là. Mais pour le moment, c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment spectaculaire comme petit véhicule.
Ouais. Donc, la batterie plus petite va probablement donner la même autonomie que la Leaf actuelle. Donc, on parle de 250 km peut-être. Là.
Probablement.
Ce qui est bien. Donc, les gens vont avoir le choix. C'est bien d'avoir le choix. Mais c'est la même chose avec la Leaf maintenant, avec la Leaf Plus. Là. T'as le choix, tu vas payer selon l'autonomie que tu veux avoir, donc ça te donne le choix. Donc ouais, j'ai vu un Kona EV cette semaine ou la semaine passée sur la route, parce que le premier Kona EV au Canada a été vendu à Valleyfield.
Okay.
Donc c'est peut-être lui que j'ai vu passer. Là.
Ouais, ben j'en ai vu quelques-uns, moi. Donc. C'est vraiment, honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Là.
C'est bien. Non, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ça va être en... deux semaines. Ouais, la semaine prochaine, j'ai la Volvo S60, puis la semaine d'ensuite, j'ai le Kona EV. Donc, j'ai hâte de l'essayer. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont hâte que je l'essaye, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir le voir chez moi. Donc,
OK.
Ouais. Ouais, j'ai des gens intéressés. J'ai une personne qui attend de voir le Kona EV et le Niro EV depuis environ un an et demi, là, depuis qu'ils savent que ça va sortir. Là,
Le Niro, j'ai hâte de voir. Moi, j'aime mieux le format du Niro, je trouve qu'il est plus spacieux, il est plus, tu sais, il y a plein d'affaires, mais j'ai vraiment été impressionné de la motorisation, des composantes électriques du Kona.
Bon, on s'entend que ça va être semblable, là. C'est pas mal la même mécanique puis la même plateforme, c'est le design intérieur-extérieur qui change un peu. Donc, hâte de voir ça. Ouais, j'ai hâte de voir. Moi, j'étais au volant de quelque chose d'un petit peu plus gros. J'étais au volant du Kia Sorento V6. Avec 7 passagers. Donc, un gros véhicule, mais le Sorento, ça a toujours été dans cette catégorie-là, un de mes véhicules préférés. C'est confortable, c'est spacieux, le véhicule est vraiment joli, l'intérieur, la finition est vraiment à point. Le toit panoramique de ce véhicule-là est presque infini. Ça donne vraiment un beau look à ce véhicule-là. Et mon fils était heureux parce que dans cette version-là, il y avait les sièges arrière chauffants.
Ah ben là!
Ouais, on a les sièges avant chauffants ventilés, sièges arrière chauffants, volant chauffant. Le système de divertissement de Kia qui, même si c'est peut-être pas le meilleur dans l'industrie, est super efficace, super facile à utiliser. Joli aussi à regarder, là, les icônes et tout ça. C'est un système qui est bien ficelé. Donc, c'est un véhicule en tant que tel qui est, ma foi, assez incroyable. Il est disponible avec un 4 cylindres de 185 chevaux ou sinon, il est disponible avec le moteur V6. Là. Tous les deux, des transmissions automatiques à 6 rapports et disponible avec traction intégrale là, dans les modèles 4 cylindres et les modèles 6 cylindres. Le modèle 6 cylindres, je pense que ça vient automatiquement all-wheel drive, là, 4 roues motrices.
Ouais,
mais pas le 4 cylindres, il faut avoir une version à traction avant. C'est un gros véhicule. C'est un véhicule que j'ai essayé beaucoup à son lancement. Je l'avais eu comme essai. J'avais été invité au lancement par Kia, justement au Mont-Tremblant. Je m'étais promené beaucoup avec ce véhicule-là. Même j'étais allé avec le modèle, je pense que c'était en 2000, 2016 qui a été renouvelé. J'ai monté au Mont-Tremblant avec le modèle 2015 pour aller essayer le 2016. Donc, c'est un véhicule qu'une année, je pense, c'est le véhicule que j'ai conduit le plus en tant que véhicule d'essai. Puis c'est un véhicule, comme j'ai dit, j'ai toujours aimé. C'est sûr que les prix sont la gamme de prix est assez large. Là. Ça commence à 30 195 $ pour le modèle de base. Puis ça va jusqu'à 51 065 $ pour le modèle SXL, là, qui est le modèle le plus équipé. Mais je veux dire, si vous cherchez un véhicule de cette taille-là, je pense que dans sa catégorie, c'est un des bons véhicules. On sent confortable, je veux dire, ça brasse pas, là. On a vraiment l'impression de se promener sur un coussin d'air, puis Dieu sait que par bout, là, les routes dans mon coin, c'est raboteux, là. Mais tu sens presque rien, là. C'est vraiment un véhicule qui va vous, chouchouter, là. Ça sera pas incroyablement, raboteux quand vous allez vous promener là-dedans. La transmission, c'est une transmission qui est efficace. La transmission, c'est ce rapport chez Kia. C'est une transmission qui est efficace, qui fait bien le travail. On sent pas nécessairement les changements de vitesse. J'ai pas vraiment, tu sais, un peu comme ta Niro, ouais. Niro, ton Kona électrique. Hein? J'ai pas de côté négatif vraiment à ce véhicule-là. Ça fait tout soit super bien, soit correctement. Je peux pas trouver de points vraiment négatifs. Il y a même un haillon électrique avec les versions plus équipées. Là, vous tenez le bouton sur votre commande, puis le haillon s'ouvre et se ferme tout seul. Ce qui est vraiment super quand on veut aller faire l'épicerie. Puis côté espace de chargement, c'est-à-dire, ça peut être un 7 places. Donc, c'est sûr que si vous mettez les 7 sièges disponibles, ben, votre coffre rapetisse. Mais si vous abaissez les sièges qui sont dans la dernière rangée, ça vous donne un grand coffre pour mettre beaucoup d'objets. Là. C'est modulaire. Puis comme je dis, le toit panoramique dans ce véhicule-là est juste incroyable aussi. Là.
Vraiment, c'est vraiment le fun.
Ouais.
Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai honnêtement beaucoup aimé. C'est un véhicule qui a d'une grande souplesse, qui a d'une grande douceur, qui est très spacieux, franchement.
Oui, c'est pour ça que je dis que c'est un des bons dans sa catégorie. Puis, tu sais, c'est un gros véhicule, mais il n'a pas l'air si gros que ça quand tu le regardes, juste par son design, puis il y a des petites rondeurs juste à la bonne place. La calandre est vraiment jolie de ce véhicule-là aussi. On a retravaillé la calandre, les phares. Il y a un beau design aussi en plus. Là.
Effectivement.
Fait que donc, c'est bon gros véhicule.
Exactement.
Donc, Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela, mon cher?
Ben, par mon blog, j'en ai parlé, marcbouchard.ca, sur ma page Facebook. Bien sûr, Marc Bouchard, j'accepte tout le monde et je réponds aux questions. Sur Twitter, Marc_Bouchard. Sur Instagram, Bouchard_Marc. Et bien sûr, l'adresse que l'on partage, info@saroulradio.com, une adresse courriel à laquelle nous répondons tous les deux quand nous avons le temps, nous y pensons. Et parce que des fois, on oublie, on est vieux et on perd la mémoire.
Oui, ça résume assez bien. pour moi, si vous voulez me rejoindre sur Twitter, c'est @scalazormo. Sur Facebook, c'est Luc Desormeaux. Sur Instagram, c'est Desormeaux Luc. Si vous voulez écouter l'émission, ben, vous pouvez le faire à travers soit Google Play, soit iTunes, même Spotify. Vous pouvez nous télécharger directement de notre site qui est saroulradio.com et vous pouvez nous écouter directement sur des radios web, sportradio.ca et Radio Média Plus. Si vous aimez la technologie, ben, vous pouvez aussi me suivre sur un autre podcast qui s'appelle « Réalité augmentée » où on parle de tout ce qui est divertissement, donc jeux vidéo, cinéma et autres choses du genre. Et puis, j'ai un canal YouTube, aussi une chaîne YouTube, Luc Desormeaux, où je parle surtout de jeux vidéo et de technologie et d'imprimantes 3D. Donc,
est-ce que tu publies souvent sur ta chaîne YouTube?
J'essaie de faire une vidéo par semaine, à peu près. Des fois, deux, ben, souvent c'est une vidéo par semaine. Mais tu sais, je fais ça comme quand j'ai du temps, là. J'essaie d'en mettre une vidéo par semaine au moins pour mettre du contenu. Des fois, ça va être des jeux. Comme là, je suis parti sur une lancée de nouveaux jeux vidéo que j'ai eu. Donc 3-4 jeux vidéo. Mais là, faut que je retourne vers l'imprimante 3D un peu. Parce que la plupart des gens qui suivent ma chaîne aiment l'impression 3D. Donc, j'essaie de faire beaucoup de vidéos d'impression 3D parce que j'adore ça aussi. Là. Mais j'essaie d'être constant à peu près une vidéo par semaine. Le travail, les podcasts et tout ça, à un moment donné, ça prend du temps pour la faire. famille aussi et d'autres choses. Donc, s'il n'y a pas de vidéo une semaine, c'est pas parce que j'ai été trop paresseux pour en mettre une, c'est juste que j'ai pas eu le temps. C'est à peu près ça. Donc, merci Marc d'avoir fait cette émission avec moi encore une fois cette semaine. C'est toujours agréable. Merci aux auditeurs de nous écouter. On apprécie grandement que vous preniez le temps d'écouter l'émission, peu importe où, c'est toujours apprécié. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Ça roule Radio. Bye tout le monde.
Bye bye, bonne semaine.